Au programme dans cette release, une télécommande, un avion, une caméra et de si belles photos. Das Kitsch est avec vous cette semaine et nous interviewons Laurent Rivière, CEO et cofondateur de Sunbirds. Et j'espère que tout le monde a mis son portable en mode avion, ce serait cool. Ok, allez, c'est parti. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui aimerais être non pas une petite souris, mais le pigeon qui peut se poser sur le rebord de la fenêtre lors du conseil de classe. Depuis la nuit des temps, on a tenté de dresser les pigeons pour qu'ils fassent une carte de ce qu'ils voient de là-haut. Et comme l'humain n'arrivait pas à leur faire tenir un crayon, il inventa la montgolfière et puis lui-même y dessinait les paysages en plongée. De là, la cartographie devint définitivement une activité stratégique, donc militaire. Mais en temps de guerre, les cibles ballonnées étaient un peu trop faciles pour la canonnière. On inventa donc dans la foulée l'appareil photo et le biplan motorisé. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les avions de reconnaissance militaire français sont décommissionnés à la demande de l'occupant. Tout ce matériel militaire servira à constituer ce qui va devenir l'IGN, l'Institut Géographique National, un établissement public de création de cartes qui fit concurrence justement aux cartes Michelin, mais ça on en a déjà parlé dans une autre émission. Mais reprenons la voie des airs. Dans les années 60, va se populariser un loisir, celui de l'aéromodélisme, la construction de maquettes d'avions et d'hélicoptères pilotables avec des postes de télécommande compacts. Ce loisir connaîtra une explosion quand l'électronique simplifiera le pilotage de ce que l'on nommera alors, après coup, des drones aériens, souvent raccourcis en drones, mot à la définition imprécise. En fin du futur immédiat, hélas, bien souvent, on confond le terme drone avec un usage, là encore, militaire. Ils seront tristement célèbres pour leurs applications guerrières, notamment les bombes dites « intelligentes » avec des guillemets, qui évidemment n'empêcheront pas les erreurs tragiques, les morts innocents, les civils qui n'avaient rien demandé, les victimes collatérales, celles que certaines forces armées oublient sciemment d'annoter dans leur bilan comptable. Mais on ne va pas noircir le tableau pour un très mauvais usage d'une technologie. Oui, les drones ne sont pas que militaires ou achetés par les voyeurs qui se pourlèchent la pupille en filmant la plantureuse voisine. Et même si une rumeur insistante veut que Solarus soit un satyre adepte du parrot à caméra, la réalité est qu'il s'en sert pour vérifier que sa femme est bien à la maison pour pouvoir lui faire son grand numéro, celui de se déguiser en commandant de bord dans l'ascenseur avant de sonner à leur porte. Mais là, je dérive. À une époque, la photo-interprétation de clichés prise par des avions ou par des satellites était une affaire de doigté, de crayon rouge et de coup d'œil. Passer des heures à comparer deux clichés à la lunette stéréoscopique pour évaluer la hauteur des arbres et des clochers était un travail long, fastidieux et qui te mettait un sacré mal de crâne. Le genre à ne passer en soirée qu'après une lampée de grom agricole en provenance d'île de la Réunion. Voilà, ça y est, j'ai calé le jeu de mots de l'émission. Voilà, passons. Oui, parce qu'entre autres crimes contre l'humanité, je dois reconnaître que j'ai tenté des études universitaires en biologie et j'ai pris pour voir l'option cartographie. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire qui bossait aussi au LAS, le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes. C'est une émanation du CNRS qui fait aussi dans le spatial. Un jour, il nous a présenté des images en proche infrarouge et en lointain infrarouge. Trois paires de clichés prises à une semaine d'intervalle d'un groupe de champs, des champs de blé. Il nous demande ce que c'est. Langocha dans la salle de TP. Trois semaines plus tard, nous nous sommes cotisés et programmés une sortie de terrain, genre sortie scolaire. Le prof en question demande au chauffeur de faire un détour de 3 km par rapport au trajet prévu. Par ce petit matin clair de printemps, au milieu des champs verts, d'épis, de céréales en formation, nous découvrîmes la réponse au cliché qu'il nous avait montré. Là, entre deux collines, surgissait en technicolore un champ purpurin, d'une couleur vive si soutenue qu'il semblait solide, une masse qui ondulait comme une voile dans la brise, mais un rouge si fragile. Nous avions découvert ce que nous avions vu d'un blanc éclatant avec les yeux d'un insecte technologique qui volait à des centaines de kilomètres d'altitude. Nous avions vu que c'était un champ de coquelicots. J'ai encore le rouge vif à l'œil et la mâchoire inférieure pendante. C'était il y a plus de 20 ans. J'ai découvert une poésie insoupçonnée dans la photo d'interprétation. De nos jours, les prises de vue satellites sont transmises par voie numérique. Les systèmes experts, comme nous disions à l'époque, ou les réseaux neuronaux convolutifs, comme on dit maintenant, ont pris la place de ceux qui tentaient de deviner ce qu'il y avait au sol. Enfant du futur immédiat, c'est par une photographie de champ prise d'un avion que fut redécouverte en 1946 la ferme gallo-romaine de Montmorin. Elle était enterrée, oubliée de tous, et ce qui la faisait réapparaître était son gros œuvre, faisant légèrement jaunir les pousses du champ. Parachute par le groupe japonais Denki Groove, extrait d'un album compilation double A qui devait sortir en Europe en 97 et qui finalement n'est jamais arrivé dans les bacs officiellement. Allez, c'est parti pour le grand saut.
All the very best.
parler de cartographie, de photo-interprétation, d'images prises de très haut et de ce qui se passe sur Terre, vue du ciel, il fallait prendre notre envol, comme nous avons toujours voulu le faire. Oui, fait comme l'oiseau, ça vole très haut, un oiseau, ça fait de la cartographie, un oiseau. J'interview Laurent Rivière, CEO et fondateur de Sunbirds, ex-développeur embarqué pour EIDS Astrium Satellites, ex-ingénieur système sur les satellites Spot 6 et Spot 7, si je me trompe, natif de La Réunion, le département d'outre-mer, pas le passe-temps professionnel. CPU, carré, petit, utile. Laurent, bonjour.
Bonjour.
On va se tutoyer peut-être. Comment tu es venu ? Est-ce que tu as déjà fait du modélisme aérien de ton côté ?
Alors en fait, à la base, je suis surtout passionné par l'informatique. Hein. Cette passion, elle me vient de mon père. Et donc suite à cette passion, j'ai décidé de devenir ingénieur en système embarqué. Donc j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ESIA. Et après mon diplôme, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le spatial.
L'ESIA, si je me trompe, c'est à Paris. Et d'ailleurs, il y a des anciens qui ont monté Algolia là-bas. Il y a des bonnes équipes qui en sortent.
Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est à Paris, Laval et aussi Casablanca. Et donc c'est vrai que c'est une école qui est extrêmement qui est généraliste, mais qui a un gros cursus donc orienté système embarqué et puis numérique.
Et pour en revenir, donc, c'était l'informatique avant tout, donc pas vraiment en fait le pilotage de maquettes.
Alors tout ce qui est pilotage de maquettes, c'est venu un petit peu après, oui, tout à fait. Mais à la base, c'est avant tout les systèmes embarqués, oui, et le spatial, oui, tout à fait.
Comment tu en es venu en fait vers les drones eux-mêmes ?
Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé sur les premiers satellites Spot 6 et Spot 7, j'étais vraiment... comme un gamin en fait, hein, c'est-à-dire que d'avoir la chance de pouvoir travailler là-dessus, de se dire qu'on va être sur des machines qui vont voler à 700 km d'altitude, 25 000 km/h, vitesse sol, enfin on se dit c'est incroyable. Le jour du lancement de Spot 6, c'était un dimanche à 5h du matin, tu vois, et puis il y avait toutes les équipes d'ingénieurs chez Astrium. On était réunis dans la cafette, il y avait une retransmission en temps réel du lancement depuis l'Inde. Et ensuite, tout s'est bien passé, toutes les phases de lancement sont bien passées, puis vient la première photo. Et là, j'ai vu vraiment la première photo du premier satellite sur lequel j'ai travaillé. Je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec un satellite.
Dans la même journée ?
C'était ça c'est dans l'espace d'une semaine,
voilà. le temps qu'ils se mettent en position.
Ouais. Ils se mettent en position et donc là je me suis dit c'est vraiment incroyable, c'est magnifique la photo aérienne, il y a un potentiel fou. Mais à part les photos satellites, qu'est-ce qu'on a, les photos par avion et qu'est-ce qui se passe si on veut vraiment surveiller de grands espaces mais avec une grande précision? Et là, avec mon expérience d'ingénieur, je me suis dit c'est possible d'aller vers des systèmes qui sont plus petits, plus abordables, que tout le monde pourrait acheter, tous les industriels en tout cas pourraient acheter, et qui pourraient cartographier de grands espaces avec une très grande précision. Et c'est là que l'idée de l'avion solaire est née.
Et en soi, tu avais déjà un petit peu fait voler des engins, ce genre de choses, regarder, prendre un petit parrot, quelque chose comme ça ?
Alors oui, j'avais un petit peu joué, mais mon expérience était assez réduite, il faut dire. Et donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est carrément tout apprendre de zéro. C'est-à-dire que c'était assez violent. C'est-à-dire que le modélisme, ça se rapprochait de zéro à la base, hein, mon niveau. Donc du coup, j'étais très bon en informatique, électronique, tout ce que tu veux. Mais pour faire voler le truc, j'ai dû prendre des cours, prendre les cours de mécanique du vol, aller bricoler chez moi. Il y a eu quelques crash quand même, il faut dire, mais aujourd'hui on a le drone le plus léger, le plus endurant au monde. Quoi.
Donc en soi, même pas de petits trous pour commencer.
De pardon ?
Même pas de petits trous par rapport au vélo pour commencer.
Non. On se jette directement dans l'aventure et puis on regarde ce qui se passe. Quoi.
Quelle a été ta sensation la première fois qu'une de tes constructions a pris son envol ?
Alors c'est assez spécial quand même, parce que c'est quelque chose qui vole de façon automatique, c'est quelque chose qui évolue dans son environnement et qui dans les airs, donc c'est quand même assez magique quand même. C'est de très fortes sensations pour chaque vol, je dois dire. Mais la première fois qu'on a volé au solaire en continu, c'était avec mes associés, on a sauté au plafond, quoi. On n'en croyait pas nos yeux, c'était magique.
Et finalement, c'est quoi qui te motive le plus ? La technologie, la bricolabilité ou le plaisir de piloter ?
Alors moi j'adore bricoler, j'adore concevoir, me dire que je peux avoir un impact sur mon environnement grâce aux capacités que j'ai développées, donner naissance à quelque chose qui n'existait pas avant. Et bien sûr, piloter, c'est un gros plaisir, quoi. Bon, j'avoue quand même que c'est assez stressant, parce que quand on jette un avion, qu'on conçoit soi-même et qu'on n'est pas trop sûr des fois, il peut tout arriver, quoi. Mais c'est cette adrénaline, cette intensité qui donne toute la passion pour le sujet, quoi.
Donc, tu venais du satellite, tu étais ingénieur embarqué, donc c'était sur quelle partie? Vraiment sur la partie système ou sur les capteurs?
Alors en fait, j'étais sur la partie système et logiciel de contrôle central des satellites. En fait, c'est le logiciel vraiment qui dit, voilà, déploie les panneaux solaires, va un peu plus à droite, un peu plus à gauche, change d'équipement. Donc c'est vraiment le logiciel central de contrôle du satellite Spot 6.
Et est-ce que ça t'a donné des bases intéressantes justement pour passer au développement de drones?
Ah oui, tout à fait. En fait, c'est totalement lié puisqu'il s'agit de, on appelle ça des systèmes critiques. Donc, c'est des systèmes, s'ils ne fonctionnent pas, ça peut avoir de très gros dégâts financiers, voire humains. Et donc là, il s'agissait de valider et de concevoir le logiciel qui allait contrôler le satellite. Donc, il ne faut pas déconner, quoi, en gros. Hein. Il y a un process bien calé. Donc, ça met du plomb dans la tête. Ça donne un certain professionnalisme, une certaine rigueur. Et par la suite, j'ai utilisé forcément ces compétences-là que j'ai développé pour pouvoir l'appliquer au milieu du drone.
Tiens, par curiosité sur les satellites, quel est le mode de développement? C'est pour assurer la qualité logicielle. Il y a quoi? Il y a du TDD, il y a d'autres dispositifs de qualité de service, il y a du peer reviewing. Comment ça marche en SWAT?
Alors donc en fait c'est beaucoup de développement en V. Donc il y aura là beaucoup de couches de spécifications d'un côté développement et beaucoup de plans de test surtout. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que les procédures de test vont être assez poussées à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va vouloir tester chaque ligne de code, on va savoir si chaque ligne de code est appelée ou pas, quel est l'impact, ça va être simulé en boucle ouverte, en boucle fermée. Donc on va vraiment avoir une compréhension mais à 100% du fonctionnement du logiciel de vol. Et si c'est pas à 100%, alors on doit savoir à combien. 99,3, 99,4.
Une bonne couverture de code, quoi.
Voilà, exactement, oui. C'est ça, on parle bien de couverture de code.
Et du coup, quand tu es passé au drone d'un côté, c'était « Non, mais là, on peut y aller, on y va relax. » Ou quand même, il y avait ces réflexes qui revenaient. Il fallait s'installer tel environnement de développement, s'assurer telle chose, trouver quelqu'un pour relire ton code derrière soi.
Alors dans ce process-là, ce qui se passe, c'est que le test coûte extrêmement cher. Donc nous, étant donné que Sunbird, c'est avant tout une entreprise, donc on ne peut pas se permettre d'avoir ces coûts-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu adapter le savoir-faire de développement satellite au drone, avec les contraintes économiques qui sont liées. Et donc du coup, se dire, voilà, ça c'est absolument nécessaire, ça il faut s'en passer sinon ça coûtera trop cher, et trouver un juste équilibre entre l'analyse de code et la validation fonctionnelle sur le terrain.
Il faut être pragmatique. Hein. Et puis d'un autre côté, il faut le sortir une preuve de faisabilité assez vite pour que ça fonctionne. Donc, et peut-être eu des raccourcis, on va peut-être pas en parler. D'un autre côté, est-ce que tu travailles sur les satellites Spot qui font de la photo pour le civil déjà, avec déjà énormément d'applications outre la cartographie pure. Est-ce que tu as justement un petit peu touché la photo en SWAT sur sa partie interprétation, que ce soit d'ailleurs de la photo satellite ou de la photo aérienne comme le fait IGN?
Alors tout ce qui est interprétation par rapport à Spot 6, c'était pas forcément mon domaine de compétence, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé avec nos associés à Sunbird. Donc toute la partie post-traitement, notamment photogrammétrique, a beaucoup évolué. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des outils de photogrammétrie qui sont dédiés au milieu du drone, où on va collecter un ensemble de photos géolocalisées, et où les outils de photogrammétrie vont construire des 3D point cloud, des DSM, de façon quasi automatique. Et donc l'idée, c'était de vraiment maîtriser l'usage de ces logiciels et de comprendre la valeur ajoutée par rapport à notre autonomie là-dessus. Donc c'est dans cet axe-là qu'on a progressé.
Et donc du coup, même plus besoin de trop connaître en SWAT justement ces parties-là, l'infrarouge qui est réfléchi par la photosynthèse et tout le reste, l'albédo, tout le reste, plus besoin d'être aussi spécialisé de ce côté-là.
Si, je pense que, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le drone a hérité de tout le savoir-faire de l'imagerie satellite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un très gros passé de plusieurs dizaines d'années en post-processing du côté de Spot 6, Spot 7. Les applications sont quasiment les mêmes, mais il y a une complémentarité donc au niveau des données elles-mêmes. Dans ce qui s'est passé, je pense, c'est que il y a certains savoir-faire du satellite qui ont migré vers le drone. Mais que c'est pas 100% du savoir-faire, parce que les satellites vont vouloir gérer des milliers et des milliers d'hectares, donc c'est des volumes de données qui sont énormes. Donc concrètement, ça va pas être un copier-coller, ça va être plutôt donc une mutation.
Les prix des photos satellitaires se sont cassés la gueule quand même ces dernières années. D'un autre côté, on est passé à des réductions. Je crois que la première génération de Spot en noir et blanc, c'était une résolution de 10 mètres au sol. Et là maintenant, on est à des résolutions de 20 cm, 10 cm, c'est complètement fou. Mais est-ce que ça vaut encore le coup d'envoyer des satellites, ou est-ce qu'il vaut mieux finalement investir dans une flotte de drones ?
Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment complémentaire. Moi, je suis persuadé que le satellite et les drones sont faits pour agir de concert, puisque de toute façon, un satellite sera extrêmement performant si on veut cartographier à l'échelle d'un pays, et pour donner des insights aussi en agriculture, donc sur de grandes surfaces. Mais le drone, lui, il va être capable d'aller encore plus dans les détails, dans des endroits bien précis, pour pouvoir vraiment caractériser dans les plus petits détails toutes les qualités du champ et tous ses défauts. Par exemple, quand on veut en Afrique, il y a des cultures d'ananas, et ce qui se passe, c'est que des fois il y a des champignons qui se développent, et une fois que ces champignons sont développés, ils évoluent très rapidement, et en quelques jours, en fait, ça peut détruire la culture. Ce qui se passe, c'est que les satellites n'ont pas la résolution nécessaire pour pouvoir détecter ces maladies là les drones, oui, parce qu'ils sont à basse altitude et ils sont capables donc de voir les variations de couleurs, les variations de rayonnement dans le proche infrarouge. Et donc là, ça illustre bien un petit peu le positionnement du drone par rapport au satellite. C'est-à-dire qu'on est capable de voir très, très précisément. Et le satellite, lui, il va permettre de donner des insights sur de grandes régions, mais de façon un peu moins précise. Voilà.
Donc du coup, il y a encore un avenir pour le satellite, mais il y a peut-être possibilité de prendre une part de marché. Est-ce que ça veut dire que tes anciens collègues d'Astrium Satellite ont confectionné une poupée vaudou à ton effigie, ou ils te disent « Ah, c'est trop chouette ce que tu fais, je veux rejoindre ta boîte, voici mon CV ».
Il y a beaucoup d'amis qui sont super enthousiastes, qui disent « Ouais, c'est génial, il y a une grosse disruption ». Et puis, il y en aura d'autres qui vont essayer de rester dans le satellite. Mais je pense que chacun a sa vocation après. Hein. Ouais. Mais bon, après, je pense que le satellite, comme le drone, doivent exister dans tous les cas, quoi.
Est-ce que tu es sûr qu'ils, par hasard, ils ne poussent pas leur CV chez toi, parce que c'est plus intéressant une petite start-up plutôt qu'une boîte assez grande au niveau multinational ?
En tout cas, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent nous voir en disant « Oui, je veux absolument travailler pour vous, c'est vraiment génial, c'est l'avenir, etc. » Et on y croit tous. Hein. Malheureusement, on ne peut pas recruter tout le monde. Mais quand je pourrai, je le ferai. Mais là, pour le moment, on essaie de faire au plus efficace, quoi.
On reprend après une petite pause. Fly Wings par le groupe Played, extrait de la compilation Routine par le label Warp, sorti en 2001. Vous écoutez Radio Éphémère. CCPU, et nous sommes donc avec Laurent Rivière, CEO de la société Sunbirds, qui fait donc des drones qui font de la photo à interprétation, si je me trompe.
Alors, qui font de la cartographie, oui, de grands espaces, grâce à l'énergie solaire. Donc, on est capable de voler toute la journée, de voler 10 fois plus longtemps qu'un drone standard pour explorer de grands espaces.
Solaire, ça veut dire que ça ne travaille pas de nuit ? Ou est-ce qu'il faut rajouter 25% au tarif horaire ?
Alors ça, c'est une très bonne question qu'on pose souvent d'ailleurs. Alors comment ça fonctionne un drone solaire ? Il y a une batterie, l'hypo à l'intérieur, et donc il y a forcément les cellules solaires sur les ailes. Donc cette batterie, elle sert pour le décollage où la puissance nécessaire est très importante, et une fois qu'on est à niveau, on est capable de planer et de consommer moins d'énergie. Donc il y a quand même une batterie, et cette batterie, elle nous permet de voler une heure de nuit.
Ah oui, quand même. Du coup, est-ce que tu suis, toi, avec tes associés, tes partenaires, un petit peu les performances de l'avion solaire qui a fait le tour du monde ?
Oui, totalement. Oui, Bertrand Piccard et André Brochberg ont fait un très gros exploit avec le Solar Impulse, donc qui a finalisé son tour du monde récemment. Et en fait, cet avion, c'est quoi ? C'est un symbole. C'est le symbole que la technologie du futur peut s'inscrire dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des objets à très forte valeur ajoutée et qui ne consomment pas une seule goutte de carburant. Donc moi je considère qu'on est un petit peu dans le sillage de cette révolution où Bertrand Piccard et André Brochberg ont voulu dire c'est possible, et nous en tant qu'entrepreneurs on dit c'est possible, ils l'ont prouvé et maintenant on le fait.
Alors là, la différence par rapport à Solar Impulse, c'est qu'un drone, il n'y a pas de pilote dedans, enfin en tout cas il n'est pas embarqué. Donc le drone, comment se pilote-t-il ?
Alors comment va se piloter le drone ? Il y a un ordinateur de bord à l'intérieur qui va être responsable du vol automatique, qui vole vraiment tout seul, et on aura un portable au sol, une station sol on appelle ça. Donc sur cette station sol, il y aura un logiciel qu'on a développé et qui va présenter une carte, un peu comme Google Maps. On va pouvoir cliquer dessus, dire voilà, dans un premier temps tu vas aller ici, ensuite ici, ensuite ici. On va envoyer ces points qu'on appelle des waypoints, des points GPS, dans le drone. Il va stocker ces points en mémoire. Donc, et après le décollage, il va commencer à faire automatiquement son vol.
Et du coup, est-ce qu'il peut aussi être piloté est-ce qu'on peut changer ce plan de vol justement pendant qu'il est en train de voler, ou il faut la connexion filaire, USB et tout le reste ?
Alors en fait, il y a une liaison directe avec le drone, donc on peut faire tout ce qu'on veut. On peut le reprendre en manuel si on veut, on peut changer en temps réel des points des waypoints, on peut contrôler la caméra, donc par exemple arrêter, reprendre la période de triggering, on appelle ça, donc prendre toutes les 3 secondes, 4 secondes, etc. Donc c'est vraiment, il y a une vraie interaction en temps réel avec le drone. On peut monitorer les paramètres, combien d'énergie solaire, niveau de batterie, altitude, etc.
Je suppose quand même qu'il y a des conditions de vol. Est-ce que ça peut vraiment voler par intempéries ? Et est-ce que le vent, il y a des vitesses de vent à partir duquel on dit, oula, quand la chaussette est trop dressée à l'horizontale, c'est même plus la peine ?
Ah oui, ça fait partie des pré-checks à faire absolument avant un vol. Donc on a forcément un domaine de vol. Nous, on préfère voler en dessous de 40 km/h. Et donc on peut résister à de petites averses, en temps de forte pluie, on préfère éviter.
Voilà. Puis il n'y a plus grand chose à analyser quand il pleut. Hein.
Voilà, la qualité de la data, de toute façon, sera inutilisable. Donc, dans tous les cas, il faut du soleil pour pouvoir avoir de bonnes données.
Et alors, pourquoi avoir décidé de faire de la captation d'énergie solaire plutôt qu'embarquer en fait l'énergie dont a besoin le drone lui-même ? Est-ce que c'est pour des raisons de poids ou pour des raisons économiques ? Ou de sécurité, hein, parce que les batteries, ça prend feu dans les avions.
Alors en fait, l'énergie solaire, ça nous inscrit dans un cercle assez vertueux. C'est-à-dire que si on voulait vraiment voler 10 heures toute la journée, il nous faudrait un drone beaucoup plus lourd. Donc plus difficile, parce qu'étant donné que c'est des batteries lipo, ça va être difficile à gérer d'un point de vue réglementation. Ça va être plus dangereux, ça va être plus difficile à transporter. Donc là, grâce à l'énergie solaire, on est vraiment capable de voler extrêmement longtemps, à faible coût, on consomme pas de carburant et en plus on est extrêmement léger, on pèse 3,5 kg, hein. Notre drone on peut le jeter à la main et on peut le porter sur le dos, donc c'est vraiment ça la disruption technologique.
En plus, 3,5 kg, mais il fait bien son 1,50 m de mètre d'envergure quand même. Hein.
Même plus, il fait 3,20 m d'envergure. Ouais.
Ah oui, ok, il est plus grand que moi. Donc tu m'as montré une maquette qui était un peu réduite.
Ouais, tout à fait, oui, je suis 1,95 m, il est encore plus grand que moi.
Ouais, sur le dos, quand même, ça doit pas être simple pour passer les portes. Du coup, effectivement, est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières vis-à-vis des panneaux solaires ou finalement, il y a des panneaux solaires qui sont suffisamment souples pour s'adapter aux formes d'ailes? Sans trop de soucis.
Alors c'était justement un vrai travail, il y a eu beaucoup de travail là-dessus, on a défini un process donc qui Sunburst garde confidentiel et qui définit tout le savoir-faire de notre société.
Je te demande pas de violer tes NDA ou tout ça, hein, t'as pas besoin. On est sur une radio de punk, mais quand même.
Non, de toute façon, je pourrais pas répondre dans tous les cas. Mais donc du coup, on a réussi à définir un process industriel qui est capable donc d'intégrer des cellules sur les ailes de façon à respecter l'aérodynamisme, de façon à garantir le maximum de rendement solaire et aussi d'être extrêmement léger. Et ça, personne ne l'a vraiment fait de façon industrielle actuellement. On est capable de répéter ça. Oui, on vend les premiers avions solaires au monde.
Voire même le savoir-faire, ça vous dirait d'être sous-traitant, je sais pas, pour Parrot ou un autre, là-dessus?
Alors ça pourrait être possible, hein. Tout est envisageable après, hein. C'est-à-dire que nous on est totalement ouvert aux opportunités. Actuellement on commercialise ce premier avion solaire qui a une très grosse valeur ajoutée pour les grands espaces et qui sait ensuite où le vent peut nous mener.
Ouais, on verra peut-être une petite boîte du côté de Blagnac là, qui a une grosse structure, hein, qui fait des gros navires. Est-ce que finalement, justement, travailler avec l'énergie solaire, ça a simplifié ou cela a complexifié l'intégration par rapport à si on était sur une autre solution, solution moteur à deux temps comme on faisait dans le modélisme aérien?
Alors ça a clairement complexifié le design, parce que là on se positionne en leader, en pionnier, puisque personne ne le fait, ou alors dans son garage, c'est possible de le faire un prototype qui vole au solaire, c'est-à-dire, mais au bout de 2-3 atterrissages, les cellules solaires vont se casser, donc c'est pas un produit, c'est un bricolage. Donc une fois qu'on veut un produit industriel, là, il n'y a personne qui l'a fait, donc on navigue, on fait du hors-piste totalement, hein. Donc l'idée c'était de dépasser l'état de l'art, c'est d'aller un petit peu plus loin, voire bien plus loin. Donc du coup forcément c'était un vrai travail exploratoire, le design lui-même c'était une aventure d'ingénieur, quoi.
D'un autre côté, donc partir dans les airs, ok, mais qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, qu'est-ce que vous voyez? Il y a de l'infrarouge, il y a de l'optique, il y a du radar, de l'altimétrie. Quelles sont les données en fait qui sont prises en compte à bord?
Alors, suivant les applications, la caméra sera différente. Donc si on veut faire du mapping, par exemple, pour inspecter des lignes électriques, on aura une caméra donc standard 20 mégapixels qui sera capable donc de prendre différentes photos, faire de la photogrammétrie, et on aura vraiment quelque chose de visible, un modèle 3D dans le visible. Mais si, par exemple, on parle d'agriculture, là, il faut aller encore plus loin. Donc il faut qu'on capte dans le proche infrarouge. On aura donc des caméras multispectrales capables de faire des images qu'on appelle des images NDVI pour pouvoir détecter des maladies, détecter le stress hydrique et avoir des préconisations sur l'utilisation des fertilisants et des pesticides.
Alors NDVI, pardon, abréviation, title égal.
Alors j'ai neutral, genre j'ai plus en tête. Hein.
Donc en gros, c'est un format industriel?
Alors donc c'est un index qui permet de caractériser donc une végétation. Donc c'est des cartes vraiment qui se basent sur l'index du proche infrarouge donc de la captation de données pour pouvoir ensuite faire de la préconisation sur du stress hydrique et sur le rayonnement de la plante et la qualité, la vivacité de la plante.
Donc ça veut dire, donc tu as dit que on peut mettre différentes caméras, c'est soit donc le drone n'embarque pas toutes les caméras, c'est quelque chose qu'on peut changer à la volée avec un plug dessus?
Alors actuellement on commercialise des drones en embarquant des caméras, on peut pas encore changer la caméra, ça c'est prévu pour le futur, puisqu'on vise différents marchés, hein. C'est-à-dire qu'un agriculteur n'aura pas besoin d'une seule caméra. Voilà, donc, et ceux qui font les lignes électriques auront besoin d'une autre caméra bien spécifique. Donc pour le moment, on ne peut pas interchanger. On se base surtout sur la valeur ajoutée de la caméra et la valeur ajoutée de la mission.
Est-ce que les données, du coup, sont traitées et interprétées à bord ou est-ce qu'elles sont transmises à la base au sol? Je sais, la question est peut-être un peu touchy, peut-être j'ai des choses à ne pas dire.
Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tout va être post-processé au sol. Ce qui se passe, c'est donc du coup, pour la cartographie standard, on va récupérer toutes les photos et ensuite un logiciel au sol va tout cartographier, va coller toutes les photos ensemble pour pouvoir avoir des modèles 3D et avoir de la valeur ajoutée, avoir le produit final, le délivrable.
Est-ce que du coup ces données vous les processez à des services tiers ou finalement ça reste au sein de votre boîte je vais dire vraiment en autonomie de ce côté-là?
Alors actuellement donc on va fournir la solution drone et l'utilisateur va être formé donc à toute l'opération de post-traitement. Mais dans le futur, on imagine bien donc des logiciels propriétaires Sunbirds capables donc de faire le post-traitement de façon automatique. Ouais.
Sur le site de Sunbirds, que vous envisagez une quarantaine d'applications derrière. Quels sont les types de services en fait que vous envisagez en dehors du purement agricole et donc l'inspection de lignes aériennes?
Alors là, on a une grosse application en tête actuellement, c'est le livestock farming en Australie. Donc une ferme en Australie, c'est 10 000 km². Donc 10 000 km², c'est la taille du Liban. Donc quand un fermier a une ferme aussi grande à gérer, donc il utilise des avions, des hélicoptères, et il fait le tour de sa propriété comme ça, donc en consommant du fuel. Nous on est arrivé, on a dit voilà, on a un drone qui est capable de faire 300 km d'un coup, est-ce que ça vous intéresse? Donc forcément c'est l'euphorie là-bas et on va y aller pour pouvoir faire voler nos drones en Australie et aider tous ces fermiers. Il y a plus de 85 000 fermes là-bas, donc le potentiel est énorme.
Ah oui, puis je veux bien croire que si une fois que vous avez mis le pied dessus, vous le lancez le matin, le soir c'est terminé. Ça a dû intéresser puisque c'est vrai que c'est un pays qui a énormément de besoins de ce côté-là. Je crois que c'est le pays qui a le plus d'aérodromes au monde, d'après ce que j'ai compris.
Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est un pays qui a de très grands espaces où la culture du vol de l'aérien est assez développée. Un fermier qui a ses avions, ben, c'est pas forcément commun en France. Et du coup, c'est vrai que le potentiel de Sunbirds est énorme. Donc il y a aussi un peu de soleil en Australie, donc ça nous arrange, quoi.
Et puis quand même, ça veut dire que vous allez aussi vous développer aux antipodes tranquillement.
Oui, alors c'est un gros challenge. Donc là, on a commencé à tisser des contrats de distribution là-bas. Donc on met notre premier pas dans le pays, quoi.
Question, on va voir si on en a. Est-ce que tu ferais voler ta création au-dessus du piton de la fournaise en pleine éruption ou franchement là non?
Alors, faut voir. Si le début de l'éruption, pourquoi pas.
Dit volcan l'a pété. On fait une coupure. Piton de la fournaise par le groupe Robo Orchestra, extrait de leur album Now We Can Walk. Et c'est un clin d'œil parce que je crois que notre interviewé a vraiment cru que je parlais créole dans la dernière question. vous écoutez Radio Éphémère. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et donc nous sommes avec Laurent Rivière, CEO de Sunbirds, donc une entreprise qui fait des drones solaires pour de la photo-interprétation. Laurent, l'une des choses que l'on voit passer de plus en plus maintenant, c'est des contraintes, des nouvelles réglementations qui sont exigées soit par des politiques, soit par des groupes de pression. Il y a notamment l'idée que les drones de particuliers, il faudrait les enfermer dans un hangar et ce genre de choses. Est-ce que toi, est-ce que ton entreprise, ça te gêne, voire même est-ce qu'il y a un groupement d'entreprises derrière pour essayer de contrebalancer ?
Alors, c'est sûr que les comportements, on va dire, un peu irresponsables de personnes qui sont peut-être un peu mal informées peuvent être lourdes de conséquences. Si on fait voler un drone, un multirotor, un jouet sur une piste d'atterrissage, alors forcément, et que ça fait le tour de tous les journaux, il y a une espèce de phobie qui se crée. N'empêche que c'est deux choses totalement différentes. Il y a le drone de loisir d'un côté, il y a le drone professionnel d'un autre. Le drone professionnel est extrêmement encadré par la DGAC en France. Avec tous ces incidents, la réglementation a tendance à vouloir un peu se durcir. Donc ça ne joue pas forcément en notre faveur côté réglementation. Mais nous, on est là aussi pour créer de la confiance, pour dire voilà, on est des gens sérieux. Il y a une filière professionnelle, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de potentiel qui se profile. Et donc nous, on est là pour contrebalancer et dire oui. Il faut réglementer le drone de loisir, mais il ne faut pas limiter non plus le potentiel des applications professionnelles. La filière elle se structure et peu à peu la réglementation elle va trouver sa forme, on estime dans à peu près 5 ans, pour pouvoir donc faire du vol beyond line of sight et donc du vol longue distance et cartographier de grands espaces de la façon la plus sûre et flexible possible sur tout le territoire européen.
Beyond line of sight, ça veut dire en dehors de la ligne de vue, puisque la réglementation actuelle oblige à avoir tout le temps le regard sur le drone, même quand on fait d'ailleurs du vol en VR, en lunettes de réalité.
Oui, tout à fait. En fait, là, la grosse partie du marché du drone professionnel s'axe sur le vision line of sight, donc il faut voir le drone à chaque fois. Mais le potentiel est absolument immense quand on veut faire du beyond visual line of sight. Et là, on est en train de déverrouiller progressivement ça en Europe. Ça se fait beaucoup en Australie aussi, c'est pour ça qu'on veut y aller. Et donc là c'est vraiment un jeu où il faut s'harmoniser avec les organismes de réglementation pour trouver le bon équilibre.
D'un autre côté, justement, on a parlé un petit peu, mais rapidement justement de ces juridictions et tout ça, est-ce qu'il y a un groupement d'intérêts au sein d'entreprises justement sur ces drones industriels pour essayer d'autoréguler le secteur ou essayer de faire un petit peu pression, ou pour l'instant justement il n'y a rien de ce côté-là et chacun joue de son côté, va voir son député?
Alors la filière commence à se structurer, donc il y a notamment la Fédération professionnelle du drone civil qui fédère tous les acteurs en France en tout cas pour pouvoir justement discuter des problématiques des professionnels s'interfacer avec la DGAC pour pouvoir mettre en place une réglementation qui soit donc à la hauteur du marché et qui garantisse aussi les exigences de la DGAC en termes de sécurité avec personne au sol.
Actuellement, donc, un agriculteur vient te voir et te dit « Ouais, mes champs de maïs, là, il faut que je sache où c'est qu'il y a des lapins et où c'est que ça a besoin d'eau. » D'accord, mais pour faire voler le drone, il faut déposer le plan à la DGAC, il faut avoir une autorisation spécifique, il faut aller voir le maire, le préfet, ou est-ce que c'est relativement unifié, standardisé et à la limite, ça peut se faire à partir de ton logiciel ?
Alors, donc, une fois que tout est mis en place, c'est facile de faire ce genre d'opération, en tout cas en visual line of sight, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en vue du télépilote. C'est-à-dire que le télépilote, il aura été formé, il aura des papiers officiels auprès de la DGAC pour dire « voilà, c'est bon, je suis en règle ». Le drone lui-même est certifié, donc là, il va falloir donc, juste déclarer le vol 24 heures à l'avance et faire la cartographie. Mais il faut quand même informer la DGAC du vol.
Donc avoir le permis, avoir fait passer au centre de certification de l'aviation civile, qui d'ailleurs est pas très loin. Hein. Vous l'avez fait passer à l'éclateur de foudre ?
Alors pas encore, non.
Il y a quand même de la concurrence sur le secteur. Certaines qui d'ailleurs a déjà fait une bonne visibilité média et tout ça. Quelle est ta carte bonus, celle qui fait que Sunbirds se démarque par rapport à ses concurrents ?
Alors donc nous, on mise beaucoup sur l'endurance et finalement l'endurance va orienter notre positionnement d'un point de façon assez fondamentale. On vole 10 fois plus longtemps que les concurrents existants, donc on va avoir un positionnement complémentaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment se positionner sur des marchés qui auront besoin d'endurance pour cartographier des milliers d'hectares. Donc on va viser des segments de marché qui ne sont pas forcément donc les mêmes que nos concurrents actuels. Donc là, nous, on va viser beaucoup d'agriculture en Afrique centrale, tout ce qui est forestier aussi, tout ce qui est anti-braconnage, beaucoup d'applications en Australie pour ce qui est surveillance des fermes, comme on a dit tout à l'heure. Donc notre endurance nous guide vers des applications qui nous sont propres.
Le mode de commercialisation, c'est purement de la vente, ça peut être du leasing, ça peut être de la location ou passer par un réseau de distribution ou de prestataires.
Alors là, c'est majoritairement de la vente actuellement. C'est le marché du drone se structure de cette façon. Il est en gestation, donc il va évoluer. Ouais, moi, d'ici quelques années, je vois bien des solutions d'opération Sunbird, par exemple, avec du post-traitement, des solutions d'intelligence artificielle pour la détection automatique, soit de défauts, soit de maladies au niveau des plantes, de la végétation. Donc, ce qui est sûr, c'est que la transformation digitale aura un gros impact sur les business models du drone et que, quelque part, la notion de service va jouer un rôle central dans l'apport de valeur des systèmes de drones.
Bon, je précise, un digital veut dire numérique, parce que sinon Gaël Cérès va faire son point galou et il va encore m'énerver là-dessus. Un réseau de revendeurs et tout ça, ça pourrait être intéressant. Solution leasing sera pas forcément Sunbird, ça pourrait être une autre entreprise qui le propose, mais il faut de toute façon être qualifié pour piloter ce genre d'engin.
Oui, tout à fait. Donc, quand on achète un drone Sunbird, il y a une formation qui va avec. Et comme on a un gros potentiel à l'international, on veut avoir des distributeurs locaux qui sont capables de faire donc la vente, le SAV et la formation également. Donc, ce qui se passe, c'est que nos acteurs locaux sont vraiment clés, sont partenaires clés. Et donc, pourquoi pas faire du leasing ? C'est-à-dire, eux, ils seraient capables ensuite, par la suite, de pouvoir louer des drones si nécessaire. Ouais.
Sunbird construit des drones. C'est pas sous-traité, donc ça veut dire quand même qu'il y a des savoir-faire. Il y a quoi ? Il y a des menuisiers, de l'injection plastique, ce genre de choses. Comment elle est actuellement en fait la ligne de production ?
Alors actuellement, nous on se concentre beaucoup sur la conception du drone en lui-même, le savoir-faire en termes de design. On a un réseau de partenaires pour fabriquer donc le fuselage, les ailes, les cellules solaires, etc. On va tout recevoir, on va faire l'assemblage.
Je suppose que ça va être plus simple que pour un Airbus A380, il n'y a pas à bloquer une route.
Oui, ça va être un tout petit peu plus simple, hein. On est un peu plus humble par rapport à ça. Mais on a quand même un petit système qui est un peu similaire à moindre échelle, évidemment. Et ensuite, on va faire donc l'assemblage, les tests en vol, et ensuite, on délivre. Voilà. On est un petit Airbus, quoi.
Du coup, c'est pas une crainte si vous sous-traitez justement la construction de la partie qui est finalement la spécificité de votre entreprise, les ailes avec les cellules solaires, c'est pas une crainte qu'il y ait une fuite de connaissances ?
Alors, on a contractualisé avec ses partenaires, justement, de façon à ce que ce soit bien clair que c'est confidentiel. Donc, actuellement, ces gens, ils ont le savoir-faire, ils sont capables de le faire mieux que nous. Donc, tout est une question de confiance, quelque part, et de tisser des liens avec des personnes qu'on sait être compétents et à la fois aussi loyales, quoi. Internaliser, peut-être, quand on grossira, ça, c'est quelque chose d'envisageable. On sait que si on identifie les bons partenaires, on sera capable d'aller plus loin que si on veut tout faire tout seul.
Maintenant, la question qui fâche, la question vie privée. Si jamais on filme un particulier ou l'espace d'un particulier au hasard, est-ce que vous êtes déjà conforme pour le RGPD qui sera mis en application le 25 mai prochain ? Je rappelle, c'est le règlement général de protection des données personnelles. Donc, c'est un règlement européen. Donc, ça passera pas par le Parlement, sera le 25.
Alors nous, belle question, nous on doit voler absolument hors zone peuplée. Donc du coup, on ne va pas aller vous voir en ville.
D'accord, donc en plus de déclarer le plan de vol, il faut s'assurer que ça soit une zone avec moins de temps d'habitation, etc.
Tout à fait. Alors ce qui se passe dans la réglementation actuelle, c'est que si on veut voler en zone peuplée, en ville, à Toulouse par exemple, ben, il va falloir rester à moins de 100 mètres du télépilote. Mais moi, les 100 mètres avec le drone, je le fais en 5 secondes, quoi. Donc, du coup, ça va pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va être contraint de voler dans la campagne.
100 mètres, 5 secondes, là, il y en a qui calculent dans la tête. Ça fait quelle vitesse ?
Non, on est à 40 km/h, je n'ai pas fait le calcul précis. Voilà, donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on vole assez vite, on va donc devoir être hors zone peuplée pour pouvoir opérer, donc ça ne nous concerne pas vraiment. Quoi. On ne va pas venir vous espionner, ce qui nous intéresse, c'est les champs, ce n'est pas les gens.
Le traitement se fait dans l'ordinateur qui est vendu donc avec le drone et que le tout est vendu en fait à l'opérateur. Ça veut dire que les données restent en local ou elles sont quand même transmises à un serveur quelque part. À qui appartiennent les données qui sont récoltées ?
Donc les données appartiennent donc à l'opérateur. Donc ça veut dire que si quelqu'un fait voler un drone sur un champ, ce qui va se passer, c'est que les données vont rester auprès de l'opérateur, sauf si l'opérateur contractualise avec l'agriculteur de façon à ce que l'agriculteur récupère toutes les données. Donc tout est cadré de façon commerciale. Et donc si on imagine un agriculteur qui ne veut pas qu'un drone survole son champ, forcément, il aura le droit de dire non et forcément, nous, on dira « Ok, d'accord, on ne vole pas dessus. » Voilà.
Maintenant que tu es dans le business des drones, avec un engin, mais un très bel oiseau hein, quand même, 3 mètres de large, des fois, des envies de le sortir juste pour le fun à une compétition de drones ou d'aéromodélisme ou d'ailes anciennes, qui sait ?
Alors ça, c'est sûr qu'il y a l'envie... Mais bon, on veut pas qu'il y ait trop de casse, on essaie de limiter notre envie de voler pour rester orienté business, mais c'est sûr que c'est le kiff total à chaque fois qu'on va voler, quoi.
Et du coup, tu as pris ta licence pour piloter un petit Parrot à $20 ?
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Ça te prend le week-end, d'accord. Laurent Rivière, merci beaucoup. Et on enregistre au moment des Innovation Days, donc peut-être bon business pour toi et ton équipe.
Merci beaucoup.
Interview enregistrée le 21 septembre 2017 à la IoT Valley, à La Bège, dans le cadre des Innovation Days. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskrich, Chief Piloting Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, à part les parties musicales, l'ensemble est en licence Creative Commons. Donc c'est fait pour. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous allons céder l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Ah. 12h Zulu Time. Pour une fois, je pense qu'on va arriver à l'heure.